J'ai choisi un thème qui est tellement évident, tellement simple, mais tellement évident, c'est le service et quelle joie, n'est-ce pas, de pouvoir servir Dieu. C'est extraordinaire, hein? Non? Ça me réjouit tous les matins de me dire qu'on se réveille et on se lève et qu'on va avoir l'opportunité, l'occasion de servir Dieu. D'une manière ou d'une autre, quelles que soient les occasions, ce sera des occasions que Dieu placera devant nous. Et ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux et d'extraordinaire. Alors, en premier texte, je voudrais lire avec vous dans Josué, au chapitre 1er. On laisse cette image-là, non? On laisse, ouais, cette image. Josué, chapitre 1er, versets 1 et 2. Ça, les textes ne sont pas à l'écran, donc merci de regarder dans vos Bibles, Bible papier, smartphone, vous avez la Bible sans doute, donc n'hésitez pas. Et je lis pour vous et avec vous ce premier passage, Josué chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Un peu plus loin dans le Nouveau Testament, la deuxième épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4 et verset 9, c'est Paul qui s'adresse à Timothée en ces termes. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Et le verset 21, tâche de venir avant l'hiver. Amen. La joie de servir. Pour entrer dans le service, pourrait-on dire dans la moisson, dans le plan de Dieu, c'est la même chose. Pour entrer dans ce plan-là, il nous faut revêtir l'habit du serviteur. Et vous avez remarqué dans les textes que j'ai lus pour vous, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Moïse était mon serviteur, et toi, Josué, tu étais le serviteur de Moïse. Dans la lettre à Timothée, on comprend que Timothée a été lui aussi serviteur. Il a été serviteur de Paul, il a servi Paul et servi la cause de l'évangile, bien évidemment. Alors, on va regarder ça plus en détail sur différents passages et vous allez voir que c'est vraiment noté de cette manière-là. Le rapport de Moïse avec Josué. On lit dans l'Exode au chapitre 24. Exode chapitre 24 et le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 24 verset 12, Monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Et puis, chapitre 33, donc vous avez lu comme moi, hein. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Il monta sur la montagne et il est monté avec Josué. Il a dit aux autres, nous montons, vous vous restez là, mais nous nous montons. Chapitre 33, et on pourrait lire à partir du verset 7, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance, il l'appela tente d'assignation, la tente de la rencontre. Et tous ceux qui consultait l'Éternel allait vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à un ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Il y était lui aussi. Il était avec lui à l'intérieur. Le rapport entre Élie et Élisée, nous l'avons un peu plus loin. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, il y a l'appel d'Élisée qui a été lancé par Élie. Chapitre 19, premier livre des Rois, chapitre 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai ». Élisée lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait ». Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Et dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 3, il y a une référence au verset 9. Deuxième livre des Rois, chapitre 3, verset 9. « Le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée, pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? Et l'un des serviteurs dit au roi d'Israël, l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Il versait l'eau sur ses mains. Il était au service d'Élie. On pourrait regarder dans les mêmes passages Élisée avec son serviteur Géasi. Là, on ne va pas lire les passages, mais vous avez tout le chapitre 4 et tout le chapitre 5 qui nous montre que Géasi, Élisée à son tour, une fois qu'il est devenu prophète, il prendra un serviteur, il prendra quelqu'un auprès de lui. Et puis Paul et Timothée, puisqu'on en a parlé, Paul et Timothée, on trouve leur première rencontre dans le livre des Actes. Il nous est dit au chapitre 16, Actes chapitre 16, verset 1er. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et à partir de ce moment-là, ils vont cheminer ensemble dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et au verset 2, il y a cette précision. Chapitre 2, verset 22, pardon. Verset 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il, en parlant de Timothée, il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » On voit bien le lien qui existe entre ces deux personnages à chaque fois. Et je m'aperçois que Josué, Élisée, Géasi, Timothée, entre nous, ils ont eu de la chance, hein, vous ne trouvez pas ? Être au service des hommes de Dieu auxquels ils ont été assignés par Dieu lui-même. On parle de Moïse, on parle d'Élie, on parle de Paul. Moi, j'aurais bien aimé être celui qui versait de l'eau sur leurs mains. Hein. Ça m'aurait plu parce que, évidemment, à leur contact et tout près d'eux, eh bien, il y avait de fortes chances qu'ils vivent des expériences extraordinaires. Et sans aucun doute, je dis que c'est une opportunité extraordinaire. C'est une grâce qui leur a été faite, évidemment. C'est un privilège, c'est une bénédiction. Et je ne suis pas loin de penser qu'ils ont tous été radicalement changés. On verra à la fin un petit bémol vis-à-vis de Géasi. Mais pour les autres, on s'aperçoit que ça avait de quoi les changer. Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, pouvait et devait les changer. D'ailleurs, dans tous les domaines de la vie, est-ce que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça ne nous change pas ? Ben souvent, hein. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on vit, ce qu'on expérimente, ben ça nous façonne et ça nous change d'une manière ou d'une autre. Eh bien, ça a été la même chose, exactement la même chose pour ces gens-là. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer une chose, c'est qu'on ne peut pas progresser tout seul. Ce n'est pas possible. Même si on le voulait, ça ne marche pas. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est un paradoxe qu'il faut accepter quand même. On doit grandir, et ça, c'est notre responsabilité personnelle. Ce n'est pas un autre qui va me brancher et puis me faire grandir en essayant de m'insuffler quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. C'est moi qui décide, je veux grandir ou je ne veux pas grandir. Dans la vie chrétienne, c'est un acte volontaire. C'est moi qui vais décider cela. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, hein. Quand je lis dans l'Épître aux Hébreux ce qui est reproché à ces croyants, on se souvient qu'il leur a été dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, et quand on entend maître, on pense aux disciples. Il y a le maître, celui qui va enseigner les autres. Vous devriez être capable d'être un modèle, enseigner les autres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons fermes, inébranlables. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, progressant dans l'œuvre de Dieu. Et ça, ben ça passe par notre propre volonté, notre propre désir. Est-ce que je veux grandir ? Est-ce que je veux progresser ? Alors évidemment, je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous disons oui à cela. Mais le paradoxe, c'est que pour grandir, j'ai besoin des autres. C'est moi qui décide de grandir, mais je ne peux pas grandir tout seul, j'ai besoin des autres. L'Église est faite ainsi, l'Église a cet attrait, et c'est dans le plan de Dieu que tout le corps solidement assemblé, bien lié, bien joint, Épître aux Éphésiens, puisse grandir de cette manière-là. Alors c'est un principe qui a été institué par Dieu, et j'appellerais ça le principe de la preuve par l'exemple. Il est évident qu'avec des mots, on peut dire plein de choses. Yaka, faucon, on peut dire plein de choses. Hein. Il y a des tribus qui existent comme ça. Hein. Les yaka et les faucons, ils existent, ouais. Mais dans le fond, je me dis que non, il y a quelque chose qui est essentiel, il y a quelque chose qui est important. Et ce quelque chose, c'est que je peux regarder autour de moi des modèles, je peux voir des gens qui vont m'interpeller, qui vont vraiment me secouer parce que je vais voir en eux quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me secoue, quelque chose qui me bouge. Finalement, ces serviteurs, pour parler de Josué, pour parler d'Élisée, pour parler de Géasi, pour parler de Timothée, ils ont vu de leurs yeux la puissance de Dieu. Ils ont été serviteurs, mais ils en ont profité. Hein. C'était peut-être des serviteurs éponges, capables de tout absorber, capables de prendre le bon. On peut imaginer ça comme ça. En tous les cas, ils ont vu des choses. Vous imaginez un instant Josué. Vous avez vu le passage qu'on a lu, hein. Quand Moïse rentre dans la tente, il n'y a personne qui rentre dans la tente. Hein. Celui qui va y rentrer, il va mourir. D'ailleurs, quand Moïse est monté sur la montagne, l'Épître aux Hébreux nous dit que personne ne pouvait s'approcher de la montagne sous peine de mort. Mais Josué, il y était, lui. Il y était avec Moïse. Il était serviteur de Moïse. Quand on comprend le plan de Dieu, Quand on regarde au-delà, on sait très bien qu'il était façonné, il était formé pour la tâche qui allait lui incomber plus tard. Puisque quand Moïse est mort et que Dieu l'a enterré et que finalement il n'est pas entré dans le pays promis, on sait que la charge est revenue à Josué. Donc tant mieux pour tout ce qu'il a vu et entendu, parce que tout ça c'est de l'acquis, tout ça c'est de la force, tout ça c'est une révélation, une connaissance qui lui permet évidemment de pouvoir aller bien au-delà, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Alors, ses serviteurs ont vu de leurs yeux, ils ont entendu de leurs oreilles, la puissance de Dieu à l'œuvre, des guérisons, des délivrances, la protection de Dieu de façon incroyable, et je me dis que c'est fascinant, certainement, de pouvoir écouter le rapport que ces gens-là auraient pu dire, auraient pu faire. Dans l'Écriture, on n'a pas grand-chose. On a quelques pages sur Élie et Élisée. On a quelques mots sur Élie et Élisée. Mais je pense qu'il aurait pu faire une série en 350 épisodes, non ? Netflix aurait acheté les droits, hein, c'est sûr. Ah, il aurait pu faire ça, hein, sans aucun doute. Pourquoi ? Parce que il y avait des choses à dire, il y avait de la matière, mais il y a vraiment eu des expériences tout à fait incroyables, tout à fait extraordinaires. Je pourrais parler évidemment des autres, je pourrais parler de Élisée. Si on revient sur quelques exemples, Élisée, à partir du moment où il rentre au service d'Élie, il nous est dit qu'un jour, il va voir Élie s'en aller vers le roi Akab et ensuite vers le roi Akazia pour les remettre droit. Plus exactement, pour leur dire « ce que tu fais n'est pas bien ». Il faut le faire, aller trouver le roi pour lui dire en face « tu vas mourir ». « Ce que tu as fait n'est pas bien », c'est ce qu'il dira à Akab. « Tu as volé le champ d'un autre, tu as agi d'une manière criminelle. Eh bien, puisque les choses sont ainsi, Dieu te le reproche et tu vas mourir ». Il fallait affronter le roi. Élisée a entendu. Il ne devait pas dire grand-chose, il devait suivre la trace, mais ça va lui servir plus tard. Quand lui-même sera confronté à d'autres rois, ça va lui être très utile. Il va se souvenir de ces expériences-là. Et que dire de l'expérience au début du deuxième chapitre du deuxième livre des rois, quand Élie monte au ciel ? Vous n'auriez pas voulu y être, vous ? Ben moi, j'aurais voulu y être aussi, pour voir un peu ça quand même, hein. C'est fascinant quand même, c'est extraordinaire. Ce sont des expériences qui sont pas communes, qui ne reviennent pas au commun des mortels. C'est comme ça. Ils ont eu le privilège de vivre ces expériences parce qu'ils étaient serviteurs de ces hommes de Dieu, on aurait pu dire de ces femmes de Dieu. Je pense, même si c'est pas dit ainsi, mais je pense que cet homme Barak a beaucoup appris face à Déborah, la juge, qui est partie à la guerre. Elle, lui aussi, a pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais que de moments intenses ils ont dû vivre, que de moments fabuleux Élisée a vécu. Et tout cela, ça a nourri son âme, ça a nourri son cœur, ça a nourri son service, ça a nourri sa volonté de s'engager, de servir et de voir la gloire de Dieu. Quand on voit la gloire de Dieu, on a envie de la revoir, n'est-ce pas ? Ouais, quand on voit la gloire de Dieu, on a envie de la revoir. Et quand on ne la voit pas, ben on ne la cherche même plus. Ces gens-là ont vu la gloire de Dieu et ils ont su communiquer à leur tour ce qu'ils avaient reçu parce qu'ils l'avaient vu, parce qu'ils l'avaient expérimenté, parce qu'ils l'avaient reçu. Je prends le cas de Géasi, qui lui sera serviteur d'Élisée. Alors lui, il va quand même voir une résurrection d'un enfant. Il va même d'ailleurs être engagé dans cette bataille-là, puisqu'Élisée va lui dire « tu prends mon bâton, tu cours à la maison, tu poses mon bâton sur l'enfant », sous-entendu, il doit revenir à la vie. Bon, il est passé au travers de cette expérience. Il n'a pas saisi le moment particulier, il n'a pas saisi que c'était un combat spirituel. Il était manifestement plutôt vénal, attiré par les choses de la terre plutôt que par les choses spirituelles. Alors il va faire ce qu'on lui a demandé, mais sans s'engager, sans que son âme soit engagée dans cette bataille. Il pose le bâton, il ne se passe rien du tout. Il retourne vers le prophète en disant « j'ai fait », il ne s'est rien passé. Il est passé à côté. Quand Élisée viendra, il priera pour l'enfant et l'enfant va ressusciter d'entre les morts. Géasi va le voir. Il aurait pu s'interroger en se disant « mais j'ai raté quelque chose, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui m'a échappé ?» Non. Quelque temps plus tard, au chapitre suivant, il y a ce fameux général syrien qui vient, qui s'appelle Naaman, et qui va être guéri miraculeusement de sa lèpre. La septième fois où il sortira de l'eau, des eaux du Jourdain, il va être complètement purifié. Il va voir cette guérison. Il va le voir. Donc, Géasi a vu des choses fabuleuses. Il a vraiment vu des choses extraordinaires. On peut le reconnaître. Il a vu la puissance de Dieu, la puissance de guérison en action. Et plaise à Dieu que nous puissions voir de telles choses encore aujourd'hui. La puissance de guérison en action, la puissance de Dieu à l'œuvre pour une résurrection, une délivrance. Dieu est capable de le faire. Et Timothée, pour ne revenir qu'à lui, et un exemple, ben il a vu l'apôtre Paul, l'homme de Dieu, sous toutes les coutures. Il l'a vu plein de force, il l'a vu lapidé, il l'a vu heureux, il l'a vu triste, il l'a vu sous toutes les coutures, d'une façon incroyable. On peut relire dans le livre des Actes, au chapitre 20, ce témoignage de l'apôtre Paul, et Timothée est là, il entend. Actes chapitre 20, c'est les derniers mots que Paul va donner aux anciens de l'église d'Éphèse. Il les a réunis à Milet, et voici ce qu'il va leur dire. Actes chapitre 20, verset 18. « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Timothée était là. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit, Agabus est passé par là et d'autres l'avertissent, que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, je sais que je ne verrai plus votre visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Quel exemple! Quel exemple! Et vous voulez faire moins après? Vous ne pouvez pas faire moins que ça. J'imagine que Timothée a dû se dire, mais je ne pourrai jamais faire moins. Honte à moi si je fais moins. Il n'a pas simplement dit, il l'a fait. Il n'a pas simplement enseigné une théorie avec des tableaux, avec des chiffres. Non, il l'a fait. Je l'ai vu faire. Mais c'est motivant quand même. C'est motivant. Comprenez que finalement, on ne progresse pas tout seul. On doit progresser, mais on progresse au contact des autres. On progresse en voyant les autres comme exemple, les autres qui font des choses que nous n'arrivons pas à faire et que nous voudrions faire, des frères et sœurs qui nous aident à grandir dans la piété, dans la compassion, dans l'amour fraternel, dans la prière, dans l'intercession, dans le combat. Et on peut multiplier encore toutes ces facettes dans lesquelles nous devons grandir. Parce que frères et sœurs, et j'en viens à ce deuxième point important, on est tous appelés quand même, on est tous appelés. Tous appelés à faire quelque chose. Il y a les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, mais il n'y a pas que ça dans l'Église. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour qu'une Église fonctionne, non? D'ailleurs, on parle des dons ministères, c'est ce que je viens de vous citer, mais il y a d'autres ministères qui ne sont pas des ministères dons. Il est parlé de ceux qui sont capables d'accueillir du monde, exercer l'hospitalité, la générosité, la libéralité, etc., etc. C'est dans l'Écriture tout cela. Et l'Église, elle fonctionne avec tout cela. Si vous ne faites pas cela, vous ratez quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Je reviens avec un témoignage donc, d'une sœur qui s'appelle Olga à Saint-Pétersbourg. Et on lui a demandé son témoignage. Elle nous a expliqué que pendant des années, Elle a été sportive de haut niveau, elle faisait du handball à l'époque. Et puis plus tard, elle s'est mariée relativement jeune. Elle a eu des enfants et puis la vie a périclité. Elle a commencé à avoir plein de problèmes, plein de difficultés. Et une de ses amies lui a dit, écoute, tu devrais goûter ça, la vie te sera plus belle. Et elle est devenue toxico. Elle est rentrée dans les drogues dures. Parce qu'on lui a promis un monde enchanté, donc elle a pris la drogue, elle a consommé de la drogue et elle est restée pendant une dizaine d'années dépendante, incapable d'élever ses enfants. Elle est tombée malade et puis elle s'est retrouvée à l'hôpital dans un très 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 mauvais état de santé. Elle avait une poche, etc., tout un tas de choses qui n'allaient pas. Et puis à l'hôpital, on lui donnait les médicaments, les soins, mais on s'occupait pas d'elle. Donc s'il n'y avait pas quelqu'un pour venir s'occuper des malades, ils n'étaient pas changés, ils n'étaient pas lavés. Enfin. Et les chrétiens visitaient les hôpitaux, des chrétiens visitaient cet hôpital. Et ils sont approchés de cette femme, ils ont fait pour elle ce que n'importe qui aurait pu faire. Ils se sont occupés d'elle, ils l'ont lavée, ils ont pris soin d'elle, ils lui ont dit des paroles réconfortantes. Elle n'avait personne, elle était toute seule. Elle avait une trentaine d'années, elle était jeune, hein, toute seule, et son avenir était tellement sombre. Ils se sont occupés d'elle, ils ont changé ses vêtements, ils sont revenus et re-revenus. Et pour finir, elle leur a dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ils ont simplement dit, mais parce qu'on est chrétien. Parce qu'on est chrétien, parce que Dieu nous a sauvés, pour la plupart, sortis de la délinquance, de la prison, de la drogue, de l'alcoolisme. Eh bien voilà, Dieu nous a fait grâce, alors on veut simplement partager avec les autres et faire du bien à d'autres. Et vous savez quoi? Cette femme, elle a donné son cœur à Dieu. C'est pas étonnant, hein? C'est pas étonnant. Elle a vu concrètement ce qu'était Dieu dans une vie. Et à son tour, maintenant, elle va dans la rue, elle va faire la soupe populaire, elle va aider les autres. Ça fait plus de 10 ans maintenant, elle va aider les autres. C'est normal, c'est tellement évident. Donc dans l'Église, on pourrait presque dire que dans le corps de Christ, eh bien on est forcément multitâche. Vous avez vu sur la diapo d'avant, excusez pour les mots, ils étaient en anglais, mais il est parlé d'avoir confiance, d'avoir du succès, de pouvoir la croissance, pouvoir grandir, d'être créatif, et faites-le facilement. Et vous avez vu le penseur de Rodin au milieu qui se dit, mais comment faire tout ça facilement? C'est impossible. On ne peut pas le faire facilement. C'est une évidence. Mais la réalité, c'est qu'on est capable de faire quelque chose, quoi qu'il en soit, chacun d'entre nous. On est appelé à servir, premièrement, et ensuite on est appelé à être un exemple. Moïse et Josué. Josué a servi, et après il est devenu l'exemple. Élie, Élisée. Élisée a servi, et après il est devenu l'exemple. Géasi, ça a raté. Il faut accepter que ça puisse rater quelquefois. Et puis Timothée, il a servi et après, il a servi d'exemple. Et on doit, frères et sœurs, passer par ces deux phases-là, me semble-t-il, parce qu'il n'est pas pensable, premièrement, qu'on ne soit pas capable de servir dans un quelconque domaine. Ce n'est pas possible. Il y a 100 000 choses à faire, évidemment. Et les besoins sont immenses et les personnes dans le besoin sont tellement nombreuses autour de nous qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Maintenant, on n'a pas forcément besoin de l'Église pour avoir des idées, hein. Il y a des gens qui, manifestement, n'ont pas d'idées. Si l'Église n'a pas d'idées, eux, ils n'en ont pas. C'est un peu dommage. Je pense que vous pouvez avoir des idées sans que l'Église les insuffle ou les souffle. Après, c'est dans l'Église que ça peut se mettre en place, et l'Église, c'est le corps de Christ finalement qui évolue avec cela, parce que la finalité reste le salut des perdus, la finalité reste la restauration, l'adoption, finalement dans la famille de Dieu, de ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce que Dieu veut faire. Et puis on est appelé à être un exemple aussi, parce que si je suis transparent, je suis là, c'est comme si j'étais pas là, si je suis transparent, j'ai pas d'impact. On peut avoir un impact positif ou négatif, c'est sûr. Mais je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à avoir un impact positif. Finalement, on va passer du rang de serviteur exécutant à celui de serviteur inspirant. Parce qu'on est toujours des serviteurs. Vous avez vu ce que Dieu dit à Josué, Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Mais dans le fond, Josué sera serviteur de l'Éternel ensuite, évidemment, évidemment. Donc on est tous serviteurs et on exécute une tâche. Mais à un moment donné, la tâche que j'exécute, elle peut inspirer quelqu'un d'autre, qui lui aussi va dire, ah ben, s'il le fait, je dois être capable de le faire moi aussi. S'il le fait, je pourrais certainement le faire moi aussi. Et ainsi, on devient inspirant à notre tour. Et c'est comme ça, sans aucun doute, que nous pouvons grandir et évoluer. Je me dis que Moïse, Élie, Élisée, Paul ont eu besoin d'avoir près d'eux des hommes de confiance qui étaient engagés, qui étaient zélés, qui étaient solides et qui étaient spirituels, bien évidemment. J'aime cette remarque de l'apôtre Paul quand il s'adresse à Timothée. Vous savez que la deuxième lettre à Timothée a été... on lui a donné un nom et on l'a appelé l'épître des naufrages. L'épître des naufrages. Parce qu'il y a dans ce rapport de Paul tous ceux qui ont fait naufrage, qui ont abandonné la foi, qui ont lâché la main de Dieu, qui se sont découragés, qui sont partis. Et dans le texte que je vous ai lu, on voit quelques-uns de ces exemples-là, où l'apôtre Paul dit « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y en a d'autres que j'ai envoyé exercer le ministère ailleurs. Et puis il dira dans ma première défense, personne ne m'a assisté, personne ne m'a assisté. Ouf, c'est terrible quand même. Et puis vous avez vu la confiance qu'il a en Timothée. Il lui dit, viens, viens, viens au plus vite. Il a envie d'avoir Timothée. Il a été emprisonné. Il vit des moments durs. Il ne veut pas les vivre seul. Et il reconnaît que Timothée a été là dans tous ces moments-là. Il a été là, il l'a accompagné, mais il a tellement envie de le voir qu'il finit par lui dire « Tâche de venir avant l'hiver, je n'ai pas encore envie de passer un hiver comme ça. » L'hiver au sens propre et au sens figuré. Quand on passe par l'hiver au sens figuré, on est content d'avoir quelqu'un à côté de nous. On est content d'avoir je dirais pas un serviteur, mais un frère, une sœur qui sera capable de nous aider, de nous accompagner, de servir la cause de l'Évangile pour que, évidemment, le peuple de Dieu progresse. Alors, ma conclusion dans tout cela, c'est que servir, c'est un engagement. Hein. C'est un engagement qui est astreignant. Vous êtes d'accord avec moi, hein. Servir, ce n'est pas toujours facile. Hein. Parce que servir, ça veut dire, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Vous savez quoi ? Je vais vous dire une confidence. Jamais, 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 jamais de la vie, j'aurais fait serveur dans un restaurant. Jamais. Parce qu'ils bossent au moment, finalement, où vous reposez et vous mangez tranquillement. Et, ou alors ils travaillent la nuit, ou alors ils travaillent tard, etc. Mais moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de manger tranquillement, je n'ai pas envie d'être embêté à ce moment-là. Et le soir, j'aime bien être chez moi, tranquille. J'aurais pas pu faire ce métier-là. Ça aurait été au-delà de mes forces. Bon, mais il y en a qui aiment. Et il y en a qui font, heureusement. Sinon, demain, je pourrais pas aller manger tranquillement dans un restaurant. Eh non, il y aura personne pour me servir. C'est pas possible. Donc, chacun y trouve son intérêt, chacun y trouve son compte. Servir, c'est astreignant. Par contre, il y a des tas d'autres domaines où je suis tellement content de servir. C'est pas pour moi que je le fais. C'est pour les autres. C'est pour voir ce qui se passe quand on le fait, c'est pour voir le sourire chez les autres, c'est pour voir eh bien, que d'autres sont encouragés, sont bénis d'une manière ou d'une autre. On est juste des serviteurs entre les mains de Dieu. Alors servir, bien sûr, c'est un engagement qui est astreignant, mais être un exemple. Vous ne croyez pas que ça l'est tout autant ? Alors plaise à Dieu que l'on soit un serviteur exécutant, mais qu'on arrive aussi à devenir un serviteur inspirant. Les deux, et qu'on puisse trouver notre place dans ce domaine-là. Accepter que ça ne marche pas avec tout le monde, c'est difficile, mais Élisée l'a appris au détriment de Géasi, je vous parlais de Géasi. Après le miracle de l'homme qui a été guéri de sa lèpre, lui, il est retourné vers ce général syrien Naaman en lui disant, en fait, Élisée te demande de l'argent, etc. Ce n'était pas vrai. Il a voulu prendre de l'argent pour lui, et malheureusement, quand il est revenu vers le prophète, le prophète lui a dit « Ce que tu dis est terrible, ce que tu dis et ce que tu as fait est abominable, puisque tu as cru que tu avais besoin d'argent, est-ce le temps pour toi d'amasser des vignes, des terrains, de l'argent, etc. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi. » Et ce jour-là, cet homme a été couvert de lèpre, et la Bible dit qu'il est sorti de la présence d'Élisée. Il est sorti du service. Vous saisissez ? Il est sorti du service. Alors il faut accepter que ça arrive. Et que quelquefois, on aura donné de notre personne, on aura fait beaucoup de choses, on aura beaucoup investi, et le résultat, c'est rien. où le résultat, c'est qu'à un moment donné, ça périclite. Mais ce n'est pas parce que ça a raté une fois, ça a périclité deux fois, qu'il faut arrêter de le faire pour toutes les autres fois et pour tous les autres. Il faut continuer à le faire. Il faut bien évidemment continuer à agir de cette manière-là. Frères et sœurs, il n'y a pas de plus belle joie pour nous que d'avoir été sauvés un jour, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de plus grand bonheur également que de pouvoir servir Dieu. Et il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir l'honorer. Je vous rappelle et je conclue avec ce verset, Éphésiens chapitre 2, verset 21. En lui, en Christ, tout l'édifice, l'Église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Que Dieu nous aide à travailler ensemble et à servir ensemble. Et vous avez sans doute des modèles, ou alors cherchez-vous un modèle, mais soyez le modèle de quelqu'un d'autre aussi, le maître et le disciple, qu'on puisse travailler dans ce registre-là et qu'on puisse ainsi transmettre ce que Dieu nous a donné, transmettre ce que l'on a reçu et ainsi bénir nos frères et nos sœurs et que d'autres, surtout ceux de l'extérieur, bien évidemment, trouve en nous les vertus chrétiennes et à cœur de s'engager avec Dieu et à cœur de faire la paix avec Dieu et à cœur de trouver le Seigneur parce que le plus important, ça reste le ciel et le plus important, c'est le salut que nous avons en Christ. Amen. On prie ensemble? Nous te remercions et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour ta bonté et nous te remercions pour ces instants. Quelle joie nous avons de te servir, quelle joie nous avons eue ce matin de t'apporter notre louange parce que nous t'avons servi, nous avons apporté à notre Dieu la gloire qui lui revient. Nous avons dit avec nos mots, avec notre cœur, que nous étions heureux de lui appartenir, que nous avions réalisé l'œuvre du calvaire et tout cela, c'est un parfum que nous avons fait monter vers toi, un parfum d'agréable odeur. Je te demande d'étendre ta main encore et de nous accorder ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué pour ta fidélité. Permets-nous de grandir, permets-nous de progresser, permets-nous de le faire les uns avec les autres et d'être un bon exécutant et puis un bon inspirant également d'une manière ou d'une autre. Que ton nom soit béni et que l'Église puisse progresser ainsi solidement liée les uns aux autres. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.